Je vais peut-être faire ça. On a trois cours sur les sacrements en général. Donc aujourd'hui, on va se pencher sur de l'incarnation au sacrement. Comment sont nés les sacrements, hein, donc un peu d'histoire. On reviendra un peu sur l'Ancien Testament. Ensuite, on aura quelque chose de plus technique, enfin je ne sais pas trop, enfin sur concrètement le sacrement, ça fait quoi? C'est quoi le sacrement? Qu'est-ce qui s'opère dans un sacrement? Ensuite, un lien entre les sacrements et l'Église. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette... qu'est-ce que les sacrements nous disent sur l'Église et comment l'Église nous fait les sacrements et nous parle des sacrements. Et puis ensuite, on verra dans les cinq cours suivants les sacrements, donc les sept sacrements. Donc on commencera en janvier avec le baptême et la confirmation. Ensuite, en février, on fera la pénitence. Pour le début du carême, c'est très bien. Ensuite, en mars, on fera les sacrements des états de vie. En avril, les sacrements de l'ordre. Et puis en mai, l'Eucharistie. Alors bon, c'est un peu réducteur de traiter l'Eucharistie en un cours. Donc ce sera très douloureux de choisir, mais bon, on verra ce qu'on peut faire. Vous aurez peut-être un petit cours en plus, si jamais. S'il y a trop à dire, j'en ferai qu'un bout. Alors aujourd'hui, de l'incarnation au sacrement. Donc en fait, il faut savoir que les sacrements tels qu'on les connaît, donc les sept sacrements, n'ont été établis qu'au XIIe siècle. Donc on peut se dire, oh là là, mais c'est super tard en fait, c'est une invention de l'Église. En fait, dès le début, la dimension sacramentelle, elle est vraiment ancrée dans la vie chrétienne dès les tout petits, tous les débuts de l'Église. Et même plus, de façon plus large, on peut dire que le rite est un élément constitutif de la vie humaine. C'est même le signe, les rites funéraires sont le signe qu'il y a, que c'est des êtres humains et pas des animaux. C'est un des critères de distinction de l'homme. Ce qu'on peut dire sur les sacrements, c'est qu'en fait, ils sont la prolongation de l'intervention du Christ. Parce que l'Église, c'est Jésus répandu et communiqué. Donc Jésus, durant sa vie terrestre, a voulu saisir une certaine ritualité. Qui fait partie complètement intégrante de toute l'incarnation. Il a vécu des rites, il a voulu des rites. Il en a même institué, on verra ça tout à l'heure. Le sacrement, on peut dire que des définitions du sacrement, donc saint Augustin a beaucoup parlé des sacrements et donc a donné trois formes de définition. Et après saint Thomas d'Aquin, on a explicité d'autres, donc ça s'est fait petit à petit avec un certain nombre de phrases. Donc saint Augustin, il dit il y a sacrement lorsque dans une célébration, donc on est dans le cadre d'une célébration, donc d'un rite, la commémoration d'un événement, donc on rappelle quelque chose qui s'est passé dans le sacrement, fait de telle manière que l'on comprend qu'il est signifié quelque chose qui doit être reçu saintement. Alors, quand il dit ça, en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a quelque chose qui nous connecte au divin. Voilà, donc on doit recevoir saintement parce qu'en fait, on est en relation avec Dieu dans le sacrement. Voilà, donc c'est une manière de voir le sacrement qui met en avant qu'il y a un rite, que c'est un événement passé qu'on commémore. Et qu'il y a quelque chose qui est signifié, qui est donné là et qui nous met en relation avec Dieu et donc qui doit être reçu saintement. Alors en même temps, quand on regarde la vie de Jésus, c'est Jésus, il est unique. Il y a une seule vie de Jésus, il est parvenu 20 fois. Donc il y a une vie de Jésus, elle est personnelle, c'est la personne de Jésus. Et donc, on a ça d'un côté, c'est l'incarnation. Et puis, de l'autre côté, on a des rites qui sont répétitifs, par définition. C'est le même thème de rite et répétitif. Et qui sont ritualisés, donc organisés dans une célébration. Alors que de l'autre côté, on avait de la vie. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on peut comprendre les deux parties? C'est-à-dire, d'un côté, l'incarnation de Jésus, personne unique, dans un événement une fois pour toutes, dans un temps donné. Et puis, comment est-ce qu'on peut comprendre les sacrements qui nous donnent Jésus, mais dans un temps qui est ritualisé et dans une répétition. Voilà, donc on va essayer de creuser un peu ça. Du coup, on va commencer par se pencher un peu dans les rites dans l'Ancien Testament, puisque Jésus s'est inséré dans une tradition juive, il est juif, et donc il a participé au rite. Et on en a plein d'exemples dans l'Évangile, qu'il a participé au rite de l'Ancienne Alliance. Et puis ensuite, on verra deux grandes thématiques. Une thématique qui est comment est-ce qu'on peut dire que Jésus a institué les sacrements, puisque nous n'avons pas le compte-rendu détaillé des sept sacrements, avec comment il faut les faire, et même des sept lui-même. Le mot sacrement n'est pas utilisé dans l'Évangile. Et puis de l'autre côté, qu'est-ce que ça veut dire sur l'Église, et comment on peut comprendre cette institution qui a pris du temps, finalement, avec jusqu'au XIIe siècle. Alors, première partie, donc Dieu agit dans le visible. Donc c'est ça, les rites de l'Ancienne Alliance. Donc dans les sacrements, avant l'incarnation, donc il y a une préhistoire de nos sacrements. Donc il y a déjà des choses dans l'Ancien Testament qui font écho avec ce que nous on vit dans les sacrements. Donc dans l'Ancien Testament, la religion de l'Alliance est profondément différente des attitudes religieuses environnantes, d'ailleurs contre laquelle elle s'est souvent insurgée, voilà, elle s'est mise en opposition avec, où au lieu de rites qui étaient dans les attitudes religieuses environnantes, qui étaient plutôt orgiaques, avec des rites pratiqués autour de banquets, mais bon, ce qui débordait un peu, et puis un côté très extatique, les rituels juifs sont très des rites assez concentrés, voire même familiaux, et qui sont tournés ou orientés vers un rite d'obéissance. Donc on est dans la relation d'obéissance à Dieu. Donc tout ce qui est les formes du sacré liées à la nature, fécondité, cycle des saisons, etc., simples liens sociaux, des rites étaient très sur des pour des entrées en relation, entrées dans la société, choses comme ça, et ont été remplacés par les juifs par des jalons que Dieu lui-même a fixés. Donc c'est pas l'homme qui crée des rites, c'est l'homme qui reçoit des rites que Dieu lui-même a fixés, et depuis l'appel d'Abraham, qui est le début de cette ritualisation qui s'inscrit dans le temps. Donc on n'a pas l'homme qui implore Dieu de faire quelque chose pour lui, mais c'est d'abord un rite finalement de célébration des merveilles que Dieu a accompli pour son peuple. Et donc le culte devient vraiment la rencontre de Dieu et du peuple. C'est intéressant de se dire que dans le désert, quand ils ont fait leur grand exode et toute la durée du désert, en fait le lieu de culte, si on peut dire, était la tente du rendez-vous. Donc on était vraiment dans le temps de la rencontre de Dieu et des hommes. Donc c'est là que Moïse parle à Moïse et aux anciens, que Dieu parle à Moïse et aux anciens. C'est là qu'il y a la première effusion de l'esprit, donc on a aussi cette dimension-là. Et puis ensuite, il y a eu le temple dans la terre promise, qui va devenir le lieu de la rencontre aussi. Et donc c'est un lieu où Dieu invite l'homme à venir lui rendre grâce. Voilà. Et ce culte donné à Dieu est le signe de la libération. Donc il y a un lien entre aussi le culte et une libération qui n'est pas juste une libération de récompense ou de il se passe quelque chose qu'on a demandé, mais vraiment de libération au sens fort du terme, qui libère l'homme. Un des rites essentiels de l'Ancienne Alliance, c'est le sacrifice. Alors, dans le temple, le sacrifice n'est pas d'abord une immolation. En fait, il y avait même pas mal de sacrifices qui étaient végétaux, donc c'était des offrandes de végétaux. Et c'était avec cette idée de sacrifice qui était un repas avec Dieu, en fait. C'est assez symptomatique, et je vous ai mis tout un passage de l'Exode, où en fait, l'immolation, c'est la première partie. Donc Moïse demande aux jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes, d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Mais ensuite, finalement, le rite, c'est pas exactement ça. C'est plutôt que Moïse prend la moitié du sang, la met dans des coupes, il asperge l'autel, et avec le reste du sang, il va asperger la foule des Juifs. Voilà. Et c'est ça qui crée l'alliance. Et donc, c'est un peu comme une alliance qui est symbolisée par le sang et ou par une forme de repas.
Mais le sang de quoi ? Le sang, quel sang ?
Le sang des bêtes immolées. Mais finalement, le rite n'est pas tant dans l'immolation, même si tout est ritualisé, donc c'est dans une façon de faire assez précise. Mais finalement, c'est pas là que ça se passe, la rencontre avec Dieu. C'est après, quand on est aspergé par le sang, en fait.
Et ça, c'est dans l'Ancien Testament ?
Oui, tout à fait. Alors, on est tous dans l'Ancien Testament, c'est au temple.
Mais maintenant, ça se fait plus, maintenant.
Non. Bah, justement, ça, les nouveaux sacrements... Ouais. Voilà, et quand ils vont sur la montagne, du coup, ils virent le Dieu d'Israël, ils avaient sous les pieds comme un pavement de saphir, limpide comme le fond du ciel. Sur ses privilégiés parmi les fils d'Israël, il ne porta pas la main, parce qu'ils ont vu Dieu face à face. Ils contemplèrent Dieu, puis ils mangèrent et le burent. Donc c'est vraiment le côté repas avec Dieu qui crée l'alliance, en fait. Dans tous les cas, c'est Dieu qui fait le sacré. Donc le mot sacrifice veut dire sacrum facere, donc c'est faire sacré. Et qui est-ce qui rend sacré quelque chose ? C'est bien Dieu, c'est pas l'homme. Une autre préfiguration des sacrements dans l'Ancien Testament, c'est la circoncision, qui finalement est une préparation, une préhistoire du baptême. Donc là, on a un geste qui est imposé par la vie nomade et qui va devenir finalement le signe de l'entrée dans l'Alliance. voilà, on remet à Dieu le prépuce et c'est l'entrée dans l'alliance. Voilà. Et ce que va être le baptême aussi, avec l'idée de l'homme nouveau. Ensuite, dans la Torah, il y a toute une série de gestes, de pratiques cultuelles au quotidien, qui rappellent la présence de Dieu dans le quotidien. Donc, on n'est pas juste sur des grandes fêtes, on n'est pas sur les rites orgiaques, mais vraiment sur quelque chose qui s'inscrit dans le quotidien. Et saint Thomas d'Aquin cite les sacrements de l'ancienne loi, il utilise le mot sacrement, circoncision, les ablutions, l'onction des prêtres et des rois, les sacrifices d'expiation, la Pâque, évidemment. Voilà. Et donc, en fait, dans tous ces anciens sacrements, on voit que c'est vraiment l'obéissance et la rencontre avec Dieu qui est importante. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que c'est transitoire. Voilà, on n'a pas quelque chose qui reste. Les anciens, avec Moïse, ont reçu l'Esprit Saint. Alors, Moïse a un cas un peu particulier, mais les anciens ont reçu l'Esprit Saint. Et ça disparaît après. Ils prophétisent, et puis au bout de 2 heures, ils ne prophétisent plus. Donc, il y a quelque chose de très transitoire. On n'est pas encore dans la nouvelle alliance qui est définitive. Alors, le rite. Donc, on a une culture. Ça, c'est notre... On est passé par l'époque des Lumières. Donc, après, on dit, le rite, c'est un truc archaïque. Voilà, on est sur des symboles. Ça fait très primitif, ça fait très ancien. Bon, en fait, on a vraiment... le rite est vraiment quelque chose qui est ancré dans la vie de l'homme. En fait, le rite a pour vocation de donner consistance. En fait, il fixe des choses parce que avec le rite, avec les choses qui se passent, en fait, le symbole qui est utilisé dans le rite prend du sens. Et ça permet de se focaliser sur ce sens et de se dire, oui, qu'est-ce qui se passe exactement ? Donc, c'est un temps de recul et un temps de prise de conscience. Voilà, et c'est souvent avec des paroles, parce que c'est ça qui explicite ce qui se passe. Et finalement, le rite est vraiment une réalité anthropologique fondamentale. C'est intéressant de se dire que dans une culture aussi moderne, qui se veut soi-disant moderne et pas du tout archaïque, en fait, on a plein de rituels comme dans les matchs de rugby ou des choses comme ça. Enfin, voilà, les rituels d'entrée ou des choses comme ça, ou même la prestation de serment d'un chef d'État. En fait, c'est hyper ritualisé et les gens aiment bien ça, quoi. Voilà. Donc, il y a vraiment quelque chose qui nous parle, nous humains, dans le rite. Dans le rite, il y a quelque chose aussi d'un symbole qui est simple, qui est visible et qui exprime quelque chose qui est au-delà. Voilà, donc une réalité spirituelle quand on est dans le religieux et qui donne du sens au rite. Sinon, le rite devient soit mortellement nuigneux, soit complètement inadapté, soit même ridicule. Voilà, donc il faut qu'il soit habité le rite pour qu'il y ait quelque chose de vraiment, qui porte sens. Voilà. À l'opposé, dans la période moderne, on pourrait dire, notamment dans le cadre du religieux, que du coup, on n'a plus besoin des rites, on a besoin des gestes. Ce qui compte, c'est la relation personnelle avec Dieu, la prière qu'on peut avoir dans son cœur, et donc on n'a pas besoin de l'extérioriser, on n'a pas besoin d'impliquer autre chose. Or, en fait, on voit que quand on fait ça, en fait, on perd complètement la... Ben, ça se dilue, quoi. C'est comme un peu comme si ça se délitait et qu'il n'y avait plus de choses, parce qu'en fait, on a besoin d'une incarnation dans une réalité concrète. Et donc, la spiritualité n'est pas juste quelque chose qui flotte dans l'air ou qui est dans mon cœur, mais qui m'embarque dans tout mon être, y compris corporel. Et Jésus s'est incarné. Et voilà, et donc c'est symptomatique que le corps et le temps et l'espace soient impliqués dans notre foi. Alors, je vous mets le parallèle avec les couples. Les couples qui sont qui se disent, bon, il n'y a pas besoin de s'exprimer son amour, il n'y a pas besoin de le dire, etc. Ça va bien, c'est évident. Voilà. Mais en fait, on voit que quand il n'y a pas ça, qu'il n'y a pas ces petits rituels, ces gestes et cette incarnation finalement au quotidien, l'amour, il a plus de mal à... Voilà, il peut se déliter, c'est plus compliqué à vivre. Voilà. Donc, il y a vraiment besoin de cette réalité physique. Et on en arrive du coup à l'incarnation. Parce que c'est bien ce que tout le dessein de Dieu, et notamment la venue de Jésus-Christ sur Terre, c'est vraiment cette idée que il vient nous chercher dans notre humanité, et notre humanité qui est aussi corporelle. Et donc on peut dire, alors c'est Monsieur Schilbeck, qui a un nom Bex, qui a un nom imprononçable, enfin surtout inécrivable, donc j'espère que je n'ai pas fait de faute d'orthographe, qui dit que le Christ est sacrement de la rencontre avec Dieu. Donc finalement, il prend le thème de sacrement au sens, justement, cette rencontre entre Dieu et l'homme. Et finalement, le Christ dans sa personne, c'est la rencontre de Dieu qui vient nous rencontrer dans notre humanité. Et c'est la rencontre que nous, on va avoir avec le Christ qui nous ramène au Père. Voilà. Donc on est bien sur ce thème de sacrement, le thème de rencontre. On va creuser après un peu plus. Et puis, cette rencontre avec Dieu et ce et sacrement, c'est donc ce qui fait que ça est, en fait. Voilà, c'est ça le sacrement. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu se fait connaître personnellement. Mais finalement, c'est dans le Fils unique, dans Jésus-Christ, que cette révélation atteint sa plénitude. Donc, c'est pas seulement sa personne, c'est pas seulement ses paroles, ses actes, mais c'est aussi, enfin, c'est toute sa vie, quoi, nous sauver de la mort, de nous introduire dans la vie même de Dieu Trinité. Donc, le sacrement est un acte de Dieu, car Dieu seul peut dispenser sa vie divine. On ne peut rencontrer Dieu finalement. On peut en avoir une idée de Dieu tout seul, mais en tout cas, s'il ne vient pas nous chercher, il ne vient pas nous rencontrer, on ne va pas vraiment le rencontrer, en fait. On ne va pas pouvoir accéder à Dieu. Voilà. Et donc, il y a aussi Karl Rahner qui parle du Christ comme étant le sacrement fondamental, puisque finalement, tous les sacrements sont en lien avec cette incarnation du Christ. Donc, le Christ est Dieu lui-même se manifestant dans notre monde et réalisant pour un saint dur notre salut par ses paroles, par les gestes qu'il a posés, et évidemment au plus haut point par sa mort et sa résurrection. Donc, en Jésus, Dieu s'approche définitivement de nous. On recreusera tout à l'heure cette idée de définitif une fois pour toutes. Les paroles, les actes de Jésus sont ceux mêmes de Dieu. Donc, la réalité humaine du Christ, visible et palpable, sa chair. Et saint Jean emploie voilà, le mot vraiment chair, quoi. C'est vraiment la charnelle corporelle, renvoie à la réalité invisible de Dieu lui-même. Donc c'est comme si le Christ était sacrement au sens qu'il est le signe, donc un symbole, enfin quelque chose de tangible, de visible, et en même temps une parole, ce qu'on va retrouver dans les sacrements, qui renvoie à la réalité invisible de Dieu lui-même, enfin, qui est même la réalité de Dieu qui vient nous rejoindre. Et donc là, on voit bien le sacrement comme un signe visible d'une action invisible. Et ça fait penser à la lettre de saint Jean, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché. Voilà, il y a quelque chose de visible, de concret qui vient à nous et qui révèle pleinement. Et ce n'est pas juste comme si, c'est qu'il révèle vraiment Dieu invisible. Voilà. Parce que Jésus est Dieu. Le Fils aimé du Père. Alors, si on en arrive au sacrement, on pourrait se dire, ok, donc le Christ, c'est bien le sacrement par excellence, le sacrement fondamental, comme dit Karl Rahner. Donc, qu'est-ce que c'est que ces sacrements de la Nouvelle Alliance, donc nos sacrements qu'on connaît, là, nos sept sacrements. Et comment on peut dire que les sacrements de la loi nouvelle ont tous été institués par notre Seigneur Jésus-Christ ? Alors, je passe un petit peu, parce que là j'ai un peu de redite, excusez-moi. Alors, peut-on parler d'institution explicite par Jésus ? Alors là, on va faire un petit parcours évangélique. Donc, en fait, Jésus, au cours de sa vie terrestre, donc il aurait explicitement, ça voudrait dire, si on dit vraiment institution des sacrements par Jésus, ça voudrait dire que Jésus a institué explicitement les signes pour qu'après, on puisse les reproduire. Donc, en fait, il y a vraiment que le baptême et l'Eucharistie qui ont une vraie consigne de Jésus. Et seul l'Eucharistie a une consigne avec en plus « Faites cela en mémoire de moi ». Puisque pour le baptême, c'est « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». On ne sait pas très bien jusqu'où ça va et comment ça va. En tout cas, il y a une consigne explicite de faire quelque chose. On ne sait pas du tout comment, puisqu'on ne sait pas les baptisants. Alors bon, comme il y avait la référence au baptême, les baptêmes de Jean, donc baptême avec de l'eau, donc on imagine que bon, ça donne quand même quelques pistes sur comment on va le faire. Mais pas tant que ça. Et puis finalement, le seul vraiment sacrement institué, c'est l'Eucharistie, puisque là, on est vraiment dans un repas. Voilà, c'est explicitement ça. Alors, il y a d'autres quand même signes qui nous rapprochent de nos sacrements. Donc, on parle beaucoup d'onction d'huile faite par les apôtres sur les malades. Donc, notamment quand ils reviennent, ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Voilà, donc on a le lien entre des onctions d'huile et de la guérison. Faite par les apôtres. Donc là, on peut dire qu'il y a quand même une action qui est un peu onction des malades. Oui.
Quand vous parlez de l'huile, ouais. Laquelle ? Parce qu'il y a plusieurs sortes de l'huile.
Bah, là, c'est pas plus explicite que ça dans sa marque. Donc on parle d'onction d'huile. Donc on ne sait pas trop... voilà. Mais en tout cas, il y a cette idée de d'oindre avec de l'huile, voilà, par les apôtres, voilà, et qui guérit les malades. Mais c'est peu explicite, on est bien d'accord. Saint Jacques, dans sa lettre, parle aussi très explicitement de l'onction des malades, pour lequel il faut faire venir les prêtres. Donc, il y a aussi le lien avec le ministre qui doit faire. Donc le prêtre dans Saint-Jacques, ça s'appelle, il dit les anciens, mais il fait penser, c'est un terme pour désigner les prêtres. Ensuite, il est question dans l'évangile de remettre des péchés. Clairement, ce pouvoir qui est éminemment divin est transmis par Jésus à ses apôtres, puisqu'il leur dit, voilà, ce que vous lirez sur cette terre sera lié au ciel, et ce que vous délirez sur cette terre sera délié au ciel. Il dit pas trop plus que ça, donc on a juste la remise de ce pouvoir. Probablement que la phrase de Matthieu 9:8 sur le si grand pouvoir donné aux hommes fait allusion à ça. Donc on est sur aussi la thématique de la confession ou du sacrement de réconciliation. La phrase « à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis, à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus », il y a eu dans Saint Jean, il y a eu des exégètes qui ont dit que c'était plutôt lié au baptême, mais en fait ça paraît bizarre parce qu'on voit bien que le baptême il s'adresse à tous, c'est la logique de ce qu'on vient de lire, « allez donc de toutes les nations, faites des disciples », alors que là on semble plutôt dire qu'il y a que c'est que pour certains et c'est à un certain moment dans la vie, donc c'est après coup. Voilà, il parle aussi de confesser les péchés les uns aux autres. Bon, on ne sait pas très bien ce que c'est cette chose-là, mais on verra quand on creusera le sacrement de la confession ou de la réconciliation qu'il y a eu plusieurs formes, que c'est un sacrement assez, assez complexe. Donc, on étudiera plus ça. Par ailleurs, rien dans la vie des apôtres ne semble indiquer qu'ils ont reçu de Jésus une ordination formelle. Même Matthias, donc, qui doit remplacer le 12e Judas, après l'ascension, il est associé, mais on ne parle pas d'imposition aux mains. On dit que voilà, on amène les deux hommes qui sont là depuis le baptême et on tira au sort. Voilà, et c'est Matthias qui a été désigné. Pas plus que ça. On n'a pas beaucoup de pratique là-dessus. Par contre, dans les Actes des Apôtres, on voit que pour les diacres, donc Étienne et les autres, là il y a, on les présente aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. Donc là, on a le geste de l'imposition des mains, qui est un peu plus l'intronisation. On a aussi dans Actes 8:16 une imposition des mains pour les nouveaux chrétiens de Samarie qui n'avaient été baptisés que au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors est-ce que ça veut dire cette imposition? Est-ce que c'est la confirmation? Comme si voilà, on avait fait quelque chose d'incomplet. Voilà. Il y a Saint Paul qui parle d'un grand mystère à propos du mariage, mais en fait il parle surtout de l'union du Christ et de l'Église. Finalement pas tant du mariage que ça. Et on ne sait pas trop. Enfin il ne parle pas non plus de sacrement. Hein, il parle juste de l'union. Voilà, pas plus que ça. Voilà, donc en fait, si on regarde les évangiles, on se dit qu'à part l'Eucharistie, clairement, ce que Jésus a proposé, c'est pas, il n'y a pas les rites, il n'y a pas la proposition de la répétition, sauf pour l'Eucharistie. Alors par contre, l'Eucharistie, elle est à l'opposé, c'est-à-dire que, un, il y a la répétition, deux, c'est un rite qui s'opère dans un rite, c'est-à-dire qu'il prend le rite de la Pâque et il en fait un rite nouveau, l'Eucharistie. Donc là, on est très très dans le cadre rituel. Et avec une évidence de l'institution, mais c'est le seul. Voilà. Ce qu'on peut noter aussi dans ce que fait Jésus, c'est aussi que il y a la place importante de l'Esprit Saint. Voilà. Et c'est vraiment quelque chose qui, même Jésus, l'incarnation, voilà, c'est l'Esprit Saint qui viendra te prendre, dit l'ange à Marie. Voilà, il y a quelque chose de, voilà, c'est dans l'Esprit Saint que ça se passe. C'est peut-être un des fils conducteurs de tout ça. Donc du coup, il faut qu'on aille chercher, quand on dit Jésus a institué les sacrements, il faut peut-être qu'on aille chercher d'une autre façon. Alors je vais vous parler de plusieurs manières de dire ça. C'est un peu comme si les sacrements, c'était en fait le prolongement de l'incarnation. Donc on a l'incarnation qui a eu lieu à un instant, voilà, un temps donné, et puis qu'on prolonge la présence de Jésus finalement. Comme si la... Alors, j'anticipe un petit peu. En fait, comme si les sacrements nous mettaient comme en contact avec Jésus, en lien direct avec sa vie, ses paroles, ses actes. Donc, il y a quelque chose qui nous... d'une actualisation ou d'une proximité. Comme si Jésus venait de nouveau, dans notre temps à nous et dans notre être à nous, finalement s'incarner. Voilà. Et donc... investir notre humanité, nos moments, alors pas les moments de toute notre vie, c'est pas tout le temps, mais c'est des moments clés, en fait. J'aurais pu mettre clé là, ça serait plus clair. Moments clés de notre vie humaine, à travers des signes visibles, pour que la grâce puisse mieux venir nous toucher. Donc, en Jésus, Dieu est venu toucher notre humanité. Et il l'a touché très concrètement. Hein, quand Jésus fait de la boue avec sa salive, c'est très concret. Et dans les sacrements, eh ben, c'est un peu comme s'il venait nous toucher dans notre humanité à travers le sacrement. Voilà. Et ce que ça nous dit, c'est que finalement, si le sacrement, c'est vraiment le lien avec Dieu, c'est Dieu qui se rend visible à nous et qui vient nous investir notre humanité. Ben en fait, on est plus sur quelque chose qui a trait à l'être et non pas au faire. Voilà. Donc, les sacrements, ce n'est pas tant faire quelque chose que finalement se remettre dans la configuration où on rentre en communion avec l'être de Jésus. Avec le divin. Je vous ai mis un exemple du sacrement du mariage. Je vais essayer d'expliquer un peu qu'il y a un sacrement intéressant parce qu'il n'y a pas vraiment de ministre. C'est les époux qui se donnent mutuellement le sacrement et qui le reçoivent de l'autre. Alors, il y a un témoin de l'Église, mais c'est les ministres du mariage sont les deux époux. On pourrait se dire, bah, finalement, c'est un peu comme si le sacrement, si on rajoute une petite couche pour que, voilà, que ça fasse mieux et que le mariage soit mieux. En fait, ce n'est pas exactement ça qui se passe. Que le sacrement de mariage soit un vrai sacrement, c'est un peu comme si, en fait, c'est parce que Dieu vient investir cet amour que cet amour peut être, en fait. Qui peut être amour au sens où Dieu est amour. Voilà. Et donc, finalement, un mariage sans sacrement, ben, en fait, ça va être juste un mariage très, très humain, voilà, avec toutes les limites de l'amour humain. Et par contre, si c'est un mariage sacrement, dans le sacrement du mariage, eh ben, il y a quelque chose de l'amour de Dieu lui-même qui vient se mettre dans ce sacrement et donc finalement dans l'union entre les deux époux. Donc il n'y a pas... c'est pas... Alors je dis, le sacrement ne change pas l'amour du couple. Non, c'est comme s'il venait lui donner l'amour même de Dieu, en fait, pour son humanité. Et c'est cet amour-là même qui va transformer, qui donc fait sacrement pour l'amour des époux. C'est intéressant parce que ça donne vraiment une idée d'un amour qui est très humain. Et donc, le sacrement, c'est pas, ça rajoute pas quelque chose. C'est pas un truc magique qui rajoute quelque chose et qui fait que du coup, c'est plus efficace, plus ci, plus ça. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment Dieu qui vient investir notre réalité humaine, notre être, la situation dans laquelle on est. Et c'est pour ça que ça a des moments clés aussi. Et ça explique que les sacrements, c'est pas... voilà, c'est des moments clés. Même si la messe, ça peut être tous les jours, mais c'est un moment clé de la messe. Voilà, c'est pas, voilà, on n'est pas sous mode perfusion en continu de sacrement. Parce qu'il y a cette idée de rencontre, et la rencontre, c'est conscientisé, c'est pas inconscient. Voilà, pour qu'il y ait une vraie rencontre. Les pères de l'Église, on parle des sacrements mimétiques. Alors, non pas qu'ils miment ce qu'a fait le Christ, puisqu'on voit bien que c'est pas, on reproduit pas finalement, à part l'Eucharistie, beaucoup de gestes du Christ, mais mimétique dans le sens qu'on rentre dans l'ordre, dans la façon dont le Christ agit, la façon dont Dieu. C'est intéressant de voir toutes les catéchèses, et il y en a eu un certain nombre, des pères de l'Église, notamment sur le baptême, elles sont très tournées baptême, pour tous les néophytes, et notamment, je vous ai cité celle de Saint Ambroise des Sacramentis, mais aussi des Mystéris. Donc, il a fait deux grands catéchèses baptismales sur les sacrements d'initiation. Donc, en fait, faut savoir qu'au temps de Saint Ambroise, il y avait baptême, confirmation et Eucharistie. C'était tout ça dans la nuit de Pâques. Donc, on était sur les sacrements. Voilà, tout le moment clé. Et en fait, ce qu'il montre dans tous ces traités, c'est vraiment de montrer comment le rite vient en... Par toute la richesse des symboles, vient parler finalement de Jésus. Et donc, par exemple, ils font le lien entre le Christ qui est plongé dans l'eau et du coup, nous, on est aussi plongés dans l'eau. Voilà, donc le baptême, on est comme le Christ. Et même plus que ça, Jésus qui a passé 3 jours au tombeau, c'est pour ça qu'on immerge 3 fois la personne au baptême. Alors, où on lui met 3 fois de l'eau sur la tête, c'est pareil. Mais enfin, il y a cette idée de 3 fois parce qu'il y a eu 3 jours au tombeau. Donc, ils ont une recherche et une extrapolation et une richesse sur le symbole qui est très... alors, c'est très classique dans les pères de l'Église, mais c'est vraiment très riche. Et pour eux, c'est vraiment... toute l'action du Christ qui passe comme dans les sacrements. Jésus, sur terre, il a nourri les foules. Il y a eu 2 fois de la multiplication des pains. Il a guéri. X fois, et de toutes les façons possibles. Enfin, il y a plein de... Toutes les guérisons sont uniques et différentes. Il a pardonné, voilà, notamment la femme pécheresse, mais aussi le paralytique. Enfin, souvent la guérison est liée aussi avec le pardon. Et chaque fois que... Et la plupart du temps, dans ses gestes, le Christ, il utilise des réalités concrètes, comme je vous le disais, avec la boue, avec sa salive, mais il a d'autres choses comme ça. Il touche les oreilles, voilà, etc. Et donc, quelque part, toute cette richesse des gestes de Jésus, des paroles qu'il a dites, puisqu'il y a souvent une... Dans les séances de guérison, il y a à la fois des gestes et à la fois des paroles. Parfois, il n'y a que de la parole aussi. Et dans toute cette richesse de réalité, comment Jésus a vécu, et bien, en fait, dans les sacrements, on a comme un... comme une extrapolation de ça, et on a aussi cette richesse dans les sacrements, qui sont tous différents. Enfin, les sept sacrements, ils sont très différents. Ils n'utilisent pas les mêmes choses. Il y a deux fois de l'huile, mais pas dans tous. Il y a le symbole de l'eau, il y a du pain, il y a confession, il y a rien. Enfin, rien de visible, il n'y a pas de symbole. Voilà, donc c'est quand même très, très varié. Voilà. Et en fait, on rentre dans la manière de faire du Christ, qui n'est pas... répétitive au point où chaque fois c'est la même chose. Donc on rentre plutôt dans une manière d'être, une manière de faire de Jésus pour en recevoir les bienfaits aujourd'hui. Voilà. C'est cette idée qu'il y a une façon ordonnée dont Dieu agit et que quelque part les sacrements, ça nous donne accès à cet ordre que Dieu institue. Voilà. Manière de faire, ordre au sens pas tant étagé, que ordre qui a une sorte de symphonie, comme une symphonie. Voilà, il y a quelque chose qui est la manière d'agir de Dieu. Et en fait, on se coule dans cette manière d'agir quand on fait les sacrements. Voilà. Et donc, pour les pères de l'Église, c'était... Bon, de toute façon, les sacrements n'étaient pas identifiés tels quels. Hein. Donc, pour eux, il y a les sacrements, le reste de la liturgie. Enfin, c'est tout un foisonnement de choses qui fait qu'on peut vivre. Voilà. C'est intéressant aussi de se dire que finalement, tous les sept sacrements qu'on va avoir, ça a été des attentions particulières de Jésus. Jésus a quand même beaucoup parlé du mariage, par exemple, à plusieurs endroits dans l'Évangile. Voilà, guérison, on en parle plein de fois, mais voilà. Donc, il y a quand même, c'est quand même des centres d'intérêt, des centres d'attention de Jésus, parce que c'est son intérêt pour l'humanité, en fait. Et donc, on le retrouve dans les sacrements. Alors... quelqu'un à l'heure, parce que en fait j'ai pas l'heure là-dessus.
43.
À l'aise. C'est pas si long. Alors, l'institution des sacrements. Donc en fait, on pourrait se dire, bon, bah, puis donc effectivement, Jésus avait qui ? Et puis l'Église a essayé de dire bah, comment prolonger, et donc elle a créé les sacrements. Alors en fait, ça s'est pas fait comme ça, et tous les débuts de l'Évangile, tout le symbole qu'on voit, c'est que finalement, il y a une forme de continuité entre la vie du Christ... avant la Pâque, après la Pâque, et puis la vie après la Pentecôte. Voilà. Donc c'est pas aussi sectorisé que ça. C'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus une forme de continuité vivante, comme un organisme vivant qui se développe, qui avance et qui bouge un peu. Jésus, pendant sa vie terrestre, a vécu avec ses apôtres. Donc il a vraiment vécu 3 ans avec eux. Ils ont participé. Enfin. Assiste à sa mort et sa résurrection. Il leur a donné l'esprit. Voilà, donc c'est très original la façon dont il a vécu avec eux. Et en fait, pour les apôtres, on peut parler ni de baptême, ni de confirmation, ni d'ordination. Voilà, pour ne prendre que 3 exemples. Donc, il y a une modalité de la vie de Jésus avec ses apôtres, qui est un régime. Et puis après, bah, quand Jésus n'est plus là, bah, il faut trouver une autre manière de vivre cette continuité. En restant fidèle à l'esprit, à Jésus, à l'esprit avec un grand E et à l'esprit avec un petit E, de trouver une manière de faire pour que ça continue. Voilà. Et donc on a une transposition, et c'est ce que l'Église a fait, qu'après le mystère pascal et surtout après la Pentecôte, eh ben, on rentre dans un nouveau régime où pour que ça puisse... que tout le monde puisse en bénéficier quelque part, eh ben, il va y avoir ce régime de la ritualité et de la répétitivité. Voilà. Mais qui n'est pas si différent que ça de la vie de Jésus, en fait. Donc c'est une transposition entre le mode l'existentiel de Jésus et puis le mode sacramentel qui essaye de reproduire ça, en fait. De vie, c'est cette même idée de même ordonnancement. Donc cette transposition, l'Église, elle ne l'a pas inventée, elle a quand même, on voit bien que Voilà, elle a été vraiment l'épouse du Christ, dans ce sens-là, où elle donne corps à la pensée du Seigneur. Donc, elle a repris des choses qui existaient. Elle a été un cran plus loin, où elle a, voilà, elle a essayé de reprendre tout ce que Jésus avait fait pour l'humanité, et elle le ressaisit quelque part, et elle le remet, elle trouve un moyen de l'appliquer à toutes les situations clés de l'humanité. Donc on a, il y a la naissance avec le Christ, voilà, la nouvelle naissance, et bah, du coup on va avoir le baptême, il y a la croissance spirituelle, on a la confirmation, il y a une situation de maladie, il y a le sacrement des malades, etc. Et donc il y a comme une transposition, tout en restant fidèle et en s'appuyant sur des choses qui, quand même, on voit, il y a des signes de chaque sacrement dans l'Évangile. Alors, évidemment, les sacrements n'ont pu se déployer qu'après la naissance de l'Église. En fait, quand Jésus est là, on n'a pas besoin des sacrements. Faut être lucide. C'est Jésus, voilà, on n'a pas besoin d'instituer des choses. Donc, tant que Jésus est là, l'Église, en fait, ne peut pas être... Puisque au temps de Jésus, ben, c'est Jésus qui est là, quoi. Donc voilà, il n'y a pas de raison d'avoir une l'Église. Et l'Église, en fait, elle naît de ce départ de Jésus et de cette l'Esprit Saint qui tombe sur tous les apôtres. Et du coup, elle part pas d'une idée de se dire bon alors comment on va faire pour que les gens continuent à croire au Christ, vivent de ça, etc. Non, elle travaille avec les réalités qu'elle avait et elle continue en fait, voilà, en les extrapolant. Et c'est pour ça que ça a pris 12 siècles. Pour se figer un peu sur quelque chose. Pour vous dire, la précaution, moi je l'interprète, alors on pourrait se dire, c'est bon, voilà, du coup elle l'a vraiment inventé, quoi, enfin 12 siècles, ça veut dire quoi? Bah, en fait, c'est tout ce temps de se dire, je fais bien les choses, j'essaye de rester dans l'esprit, je teste, j'avance, et petit à petit je discerne ce qui se passe, et voilà. Et il lui a fallu tout ce temps-là. Et je trouve que c'est hyper respectueux, en fait, de ce dépôt de ce que le Christ a confié à l'Église, qu'elle essaye de le faire le mieux possible et qu'elle dessine les contours. Et petit à petit, qu'elle se dit, c'est plutôt ça, c'est plutôt ça. Voilà, tout ce temps de travail qu'elle laisse maturer pour que ce soit vraiment ce que veut le Christ et pas ce qu'elle, elle pense nécessaire.
Et en suivant aussi les commandements.
Tout à fait. Donc, elle s'appuie vraiment sur des choses que le Christ a laissées. Voilà. Après, on voit bien dans les Actes des Apôtres, dans les premières lettres et même dans les tout premiers écrits de l'Église, les Saints Irénée ou des choses comme ça, que finalement, il y a déjà des choses qui portent trace de tout ça. Donc en fait, voilà. Par contre, ça n'a pas toujours été explicité. Donc il y a aussi une forme de... C'est comme un organisme vivant. Donc on n'a pas non plus toujours réglementé les choses. C'est sa vie, en fait. Voilà. Parce que c'est de la vie. Voilà. Alors en fait, pourquoi au XIIe, XIIIe siècle, en fait, ils ont essayé de distinguer, en fait, ça c'est toute une maturité sur, parce qu'il y avait beaucoup d'autres choses, comme le chapelet, ce qu'on appelle les sacramentaux, qui étaient d'autres formes de rites dans l'Église. Et en fait, toute la maturation et ce qu'ont fait tous les auteurs à 12e et 13e siècle, c'est pour ça que ça a commencé à se cristalliser, c'est finalement de dire que les sacrements, quel que soit mon état, moi, qui le reçois, bah, en fait, le sacrement, il est efficace parce que c'est un don de Dieu. Alors que beaucoup des choses qui, à l'époque, s'appelaient aussi sacrements et que maintenant, on appelle sacramentaux, c'est plus, quelque part, qui dépendent plus de la disposition dans laquelle je suis. C'est pas non plus très marqué, les deux choses. Mais finalement, et on le verra notamment dans l'Eucharistie, le prêtre, quand il concélèbre, c'est le pain, c'est le corps du Christ, indépendamment de la sainteté du prêtre, par exemple. Voilà. Et donc, il y a quelque chose de, quel que soit, même que je peux recevoir le sacrement, enfin l'Eucharistie, et on dit, Saint Paul dit, les uns le recevront pour la vie éternelle et d'autres pour la damnation éternelle. Donc effectivement, les fruits ne sont pas les mêmes parce que je ne suis pas dans la même disposition pour le recevoir. Mais ce n'est pas quand même lié à moi, quoi. De toute façon, c'est le corps du Christ qui vient en moi. Voilà. Ce n'est pas dépendant de moi, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je pense. Voilà. Et on l'a éminemment avec le baptême des petits-enfants, où finalement, c'est les parents qui s'engagent pour le petit-enfant. Et voilà, et on n'attend pas que le petit-enfant ait les dispositions, on ne valide pas je ne sais pas quoi. Voilà. Donc il y a quelque chose de... le sacrement, c'est vraiment la quintessence du don gratuit de Dieu qui vient nous rejoindre dans notre humanité, qui veut se faire présent à nous. Et le reste, c'est bien aussi, et c'est tout un ensemble de choses pour que nous aussi, on grandisse avec d'autres choses. Voilà. Et donc, on arrive au septénaire, donc nos sept sacrements. Bon, alors après, évidemment que sept, c'est aussi un bon chiffre. Hein, voilà. Donc, ça a dû aider parce qu'il y avait des idées avec quatre sacrements, cinq sacrements, neuf sacrements. Donc, on a à peu près tous les cas de figure. On rajoute en ci, en enlevant ça. Voilà. Donc, bon, finalement, ça s'est fixé sur sept, qui finalement englobe assez bien tous les registres de la vie, les responsabilités, les situations de la vie adulte et la croissance finalement de l'homme. Donc c'est plutôt bien vu. Catéchisme de l'Église catholique nous dit « Les paroles et les actions de Jésus durant sa vie cachée et son ministère public étaient déjà salvafiques. » Évidemment, c'est là que... voilà. « Elle anticipait la puissance de son mystère pascal. Elle annonçait et préparait ce qui allait donner à l'Église lorsque tout serait accompli. » Et donc, les mystères de la vie du Christ sont le fondement de ce que désormais, par les ministres de son Église, le Christ dispense dans les sacrements. Car ce qui était visible en notre Sauveur est passé dans ses mystères. Alors, juste petit aparté, le mot mystère, c'est en fait le mot grec mysterion, qui est traduit en latin par sacramentum. Donc, c'est pour ça qu'on a les deux mots. Et souvent, on parle des mystères de la... des mystères de l'Église. Enfin, un mystère... on emploie ce mot-là quelquefois, je ne sais plus dans quelle phrase, j'ai perdu la phrase en emploi, mais bon. On parle de mystère, en fait, on veut dire les sacrements derrière, souvent. Voilà, parce que c'est le même mot, en fait, en grec. Voilà, et donc, quelque part, toute la vie du Christ prépare ces mystères, et donc, qui nous sont révélés, nous, à aujourd'hui, par les sacrements. Et donc, l'Église, elle a fait, elle n'a voulu rien d'autre que prolonger les vues du Christ, que prolonger la grâce qu'on reçoit de Dieu. Et il lui a fallu à chaque fois prendre des décisions, rédiger des prières, choisir parmi les gestes transmis par la tradition ce qui est essentiel, ce qui est accessoire, ce qu'elle voulait mettre en avant. Elle a précisé les rites. Voilà. Et ça, c'est vraiment le travail de l'Église. Alors, c'est très symptomatique sur les sacrements, mais c'est valable sur plein d'autres choses. Voilà. Et c'est vraiment cette idée du travail de l'Esprit qui, depuis la Pentecôte, fait... régit l'Église. Il me glorifiera car il recevra de ce qui est à moi et il vous le communiquera. Voilà. C'est dit à propos de l'Esprit, mais c'est éminemment vrai pour l'Église quand elle agit au nom de l'Esprit. Alors après, c'est la question de l'actualisation. Alors très bien, on dit les sacrements, c'est Jésus, d'abord c'est l'incarnation qui est le sacrement par excellence. Ensuite, on dit, bon, les sacrements, ils prolongent pour que je puisse y accéder aujourd'hui, moi, accéder à Jésus, donc très bien. En fait, les protestants, ils disent, bah oui, mais non, le salut, il a été une fois pour toutes. Donc en fait, quand vous refaites une cérémonie comme l'Eucharistie, en fait, c'est comme si, de deux choses l'une, ou vous refaites la passion, donc c'est comme si vous refaisiez ce que le Christ avait fait, donc soit vous dites que c'est incomplet, soit vous dites que ça se reproduit et donc le Christ souffre chaque jour, quoi. Donc c'est pas logique. Soit vous dites que soit c'est une cérémonie purement humaine, et voilà, et en fait vous donnez vos propres moyens de salut, et vous faites pas confiance au Christ qui a donné sa vie une fois pour toutes, et le sacrement, enfin le salut est donné une fois pour toutes. Alors en fait, il y a eu beaucoup de réflexions autour de ce terme du coup d'actualisation, c'est pour ça que je vous en parle, pour répondre à cette crise protestante. Et notamment, le Concile Vatican II a dit, a même affirmé, donc dans une des prières eucharistiques, chaque fois que nous célébrons ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Donc elle rédige ça au présent, c'est très intéressant, donc c'est vraiment qu'est-ce qui se passe dans le rite et donc dans le sacrement, là en l'occurrence de l'Eucharistie, la messe, et puis dans le sacrement de l'Eucharistie quand je reçois le Jésus, c'est le fait qu'il y ait à la fois l'acte qui a été fait une fois pour toutes par Jésus dans l'histoire, et qu'il y a une sorte de concentration, c'est à ce moment-là que ça s'est passé, mais on sait bien que nous, on est dans le temps, et que des choses de l'incarnation ont été préparées par l'Ancienne Alliance, qui n'a pas été révoquée complètement. Il y a des choses... Voilà, on continue à regarder l'Ancien Testament et choses comme ça. Et aujourd'hui, on a dans contrepartie, et jusqu'à la fin des temps, jusqu'au retour du Christ, on a des formes de... Alors, ce qu'on appelle actualisation, mais c'est qu'en fait, le temps de Dieu, nous, de notre point de vue, il y a le temps de Jésus, et puis il y a le temps de maintenant, qui est 10 juin, en fait. Mais en fait, si on pense du côté de Dieu, en fait, le dessein de Dieu, il s'est déployé depuis la Genèse jusqu'à... fait le Père de l'Éprevier jusqu'à la fin des temps. Voilà, c'est un seul ensemble. Enfin, du côté de Dieu, il n'y a pas, c'est pas une succession d'étapes. Donc en fait, le sacrement, ça nous fait l'actualisation, quand on parle d'actualisation dans le sacrement de cette grâce de Jésus, du salut qui s'opère en nous, et donc qui s'accomplit aujourd'hui, on peut dire ça, en fait, c'est qu'on est dans le temps de Dieu. Voilà. Et donc, dans du supratemps, quelque part. Parce qu'on n'aurait pas parlé de temps de Dieu, mais au-delà du temps. Voilà. Et donc, l'actualisation, c'est dire, c'est pas de revivre la passion du Christ, donc on ne refait pas ça. C'est pas dire non plus, c'est une cérémonie purement humaine pour se rappeler, pour voilà, faire du bien. Pas du tout. C'est vraiment comme si on était mis en présence du salut que Jésus nous a opéré il y a 2000 ans, par sa mort et sa résurrection. C'est assez important, cette histoire d'actualisation. Elle est valable dans beaucoup de choses pour l'Église. Voilà, comment penser que Jésus est à la fois très respectueux de l'humanité, qui donc il s'est incarné un instant T, dans un temps de l'histoire, dans un lieu géographique précis, et en même temps, le salut, il est pour tous les hommes, de tous les temps et de tous les continents. Et en fait, l'Église, ce qu'elle fait, ou l'Esprit, parce qu'en fait, c'est l'Esprit qui, dans l'Église, fait ça, c'est vraiment de nous remettre dans le même espace-temps, quoi, quelque part. Il faudrait faire là un peu de science-fiction, je trouve, avec l'Esprit. Mais voilà, nous remettre dans le même espace-temps que Dieu, pour qu'il y ait la concomitance et que je puisse, moi, recevoir cette grâce aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, donc c'est pas mal, hein, on vit dans un espace-temps irréel. Et quelque part, quand on est en train d'adorer, comme on l'a fait tout à l'heure, l'hostie, bah, en fait, on fait quelque chose qu'on fera dans notre vie éternelle, quoi. On verra de nos yeux Jésus, voilà. Sauf que là, c'est à la fois, c'est exactement ça, c'est la même chose. Et en même temps, c'est pas ça, parce que moi encore, je vois pas bien avec mes yeux, et puis c'est pas encore complètement finalisé pour moi. Mais il y a quelque chose de cette dimension où on se met de...
Comme tu disais tout à l'heure, invisible, mais...
Mais visible, ouais. Visible. Puisque maintenant, avec l'incarnation, on pourra voir Dieu en face à face. Donc, on ne revit pas du tout la passion du Christ. On actualise. Et alors, ce mot d'actualisation, c'est vraiment de se dire, voilà, c'est le même événement qui s'accomplit dans le temps de Dieu et dans la géographie de Dieu, qui fait qu'elle est hors temps, hors géographie. Voilà. Alors, dans l'Épître aux Éphésiens, on a une phrase qui peut nous aider à comprendre ça. « En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. » L'Épître aux Éphésiens, elle est très mystique. Donc, on a bien cette idée de débordement jusqu'à nous. Voilà, c'est l'événement d'il y a 2000 ans qui déborde jusqu'à nous. Et c'est le même. Et il y a aussi, dans le sacrement, on reçoit toute cette grâce, et donc aussi, quelque part, en retour, on bénéficie de comprendre, dans toute sagesse et intelligence, de nous dévoiler le mystère, et donc de comprendre qui est Dieu, et de rentrer en relation avec lui. C'est vraiment l'idée de l'alliance et du banquet avec Dieu. Donc, dans le dit Saint Jean Chrysostome, je n'ai pas retrouvé sa phrase, mais c'est l'idée, c'est qu'il y a une telle plénitude en Dieu que le salut déborde tous les jours pour nous et vient nous rejoindre aujourd'hui dans les sacrements. Donc, cette idée de débordement de la plénitude de Dieu, qui est liée à la plénitude de Dieu et à la vitalité de Dieu, qui fait que voilà, ça déborde au-delà du temps, de la séquence du temps. La phrase de saint Paul quand il dit « Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. » Comme s'il manquait des choses à la passion du Christ. Donc là, on est toujours dans cette même idée de « Le salut, il est une fois pour toutes. » Mais en fait, c'est l'idée de rapatrier quelque part ce qui s'est passé dans le passé. Parce que le terme « ce qui reste à souffrir », c'est en fait ce qui est resté en arrière. En grec, c'est ça que ça veut dire. Et en fait, c'est l'idée de ramener ça à aujourd'hui pour que je puisse recevoir la grâce, en fait, aujourd'hui. Voilà. Et dans ma chair. Voilà. Donc, ça vient me rejoindre dans mon humanité et donc dans mon temps. Dans le temps, dans la géographie, dans mon corps, là où je suis. Voilà. Évidemment aussi dans mon esprit, mon cœur et mon intelligence. Alors, en conclusion... Saint Thomas résume ainsi les différents niveaux. Donc, je vous avais donné en entrée la définition de Saint Augustin, celle de Saint Thomas est un peu différente. Le sacrement est le signe qui remémore ce qui a précédé, à savoir la passion du Christ, qui met en évidence ce qui s'opère en nous par la passion du Christ, donc c'est l'idée d'actualisation, aujourd'hui il se passe le salut pour moi, à savoir la grâce, qui pronostique, je veux dire, qui annonce à l'avance la gloire à venir. Et donc quelque part, dans le sacrement, il y a aussi toute l'eschatologie et toute la... voilà, orientée vers la fin dernière. Et c'est éminemment vrai dans l'Eucharistie, où voilà, dans l'hostie, on contemple Dieu, et donc c'est ce qu'on fera à la fin des temps. Je vous ai remis un passage du catéchisme de l'Église catholique, toujours une source intéressante de choses. Le jour de la Pentecôte, par l'effusion de l'Esprit Saint, l'Église est manifestée au monde. Le don de l'Esprit inaugure un temps nouveau dans la dispensation du mystère. Donc là, du mystère, c'est le mystère du Christ, de l'incarnation, le salut. Le temps de l'Église durant lequel le Christ manifeste, rend présent et communique son œuvre de salut par la liturgie de son Église jusqu'à ce qu'il vienne. Durant ce temps de l'Église, le Christ vit et agit désormais dans son Église et avec elle, d'une manière nouvelle, propre à ce temps nouveau. Il agit par les sacrements, c'est cela que la tradition commune de l'Orient et de l'Occident rappelle, l'économie sacramentelle, c'est-à-dire l'action, le dessein de Dieu qui s'accomplit dans les sacrements. Celle-ci consiste en la communication ou dispensation des fruits du mystère pascal du Christ dans la célébration de la liturgie sacramentelle de l'Église. Donc c'est vraiment l'idée que dans les sacrements, on bénéficie de du salut et du mystère pascal finalement du Christ, la mort et la résurrection. Donc on est bien, les sacrements ne sont pas des gestes magiques. Il ne s'agit même pas tant de faire des gestes, ni même de faire comme le Christ. Il s'agit d'être à la manière du Christ, d'entrer dans sa volonté, donc d'adopter sa forme, ce que je vous disais sur l'ordo et le mimétique, pour que Dieu demeure en nous et nous en Dieu. Alors évidemment, parce qu'on est être humain, ça s'incarne dans des gestes et des paroles. Voilà. Mais l'idée, c'est vraiment d'entrer dans cette divinisation que Dieu nous propose grâce au salut. Je vous ai mis une phrase de Saint Jean Chrysostome. Il a toujours des très très belles phrases, Saint Jean Chrysostome. « Combien dit je voudrais voir sa figure, ses traits, sa beauté, moins que ses vêtements, mais dans l'Eucharistie, c'est lui-même que vous voyez, lui-même que vous touchez, lui-même que vous mangez. Pensez-y et adorez, car c'est le même qui est aux cieux et que les anges adorent. » Voilà.
C'est beau ça, c'est vrai.
Et dernière petite phrase, « Dieu qui est amour continue à s'incarner dans nos vies, nous donnant d'être peu à peu transfigurés par cet amour. » Cette incarnation sacramentelle que permet l'Église est un élément spirituel essentiel pour nos vies. Elle est la résurrection au travail dans notre existence de chaque jour jusqu'à ce que la fin des temps et que le Christ revienne.